Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Shalom pour ce deuxième rendez-vous d'Histoire d'Outre-Manche. À l'animation, Frédéric, votre conteur du soir. Et à la technique, l'incontournable Élie. Au menu, l'Angleterre et la dynastie royale des Tudors. Au fond, nous n'avons pas totalement quitté le pays de Galles évoqué lors de la première émission, puisque la famille Tudor est d'origine galloise. Cette histoire royale se déclinera en plusieurs épisodes. Aujourd'hui, il sera question des bâtisseurs de la dynastie Tudor, Henri VII et Henri VIII. Alors, êtes-vous prêts? Êtes-vous bien installé dans votre fauteuil douillet with a mug of tea? Perfect. Embarquement immédiat. Nous sommes à la fin du XVe siècle. L'Angleterre est une terre meurtrie. Le pays est à bout de souffle. Après la guerre de Cent Ans, qui a duré 116 ans, le royaume entre dans un nouveau conflit interminable, la guerre des Deux Roses. Elle oppose les maisons de Lancastre et d'York. Cette guerre fratricide dure près de 30 ans et plonge le pays dans une instabilité totale. La noblesse est divisée. Les récoltes sont dévastées et la population vit dans une peur constante des affrontements. Cependant, Henri Tudor, exilé un temps en Bretagne, est de retour, soutenu par un réseau de partisans. Il change la dynamique. En 1485, il remporte la victoire à la bataille de Bosworth et il parvient à prendre le trône d'Angleterre en éliminant son rival, Richard III. Henri VII fonde ainsi une nouvelle dynastie, celle des Tudors. Alors Henri VII, c'est le roi venu de l'ombre. Il est l'exemple même du roi pragmatique et politique. Contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs, il ne cherche pas la gloire par la guerre ou les conquêtes, mais plutôt à réparer les dégâts laissés par des années de guerre civile. Dès son accession au trône, il se montre habile et mesuré, cherchant à éviter toute nouvelle insurrection. Alors, pour renforcer sa position, il épouse Élisabeth d'York, une princesse issue de la famille rivale, un mariage symbolique qui marque l'unification des maisons de Lancastre et d'York. Ce mariage pacifie la cour et illustre l'intelligence politique d'Henri. Ensemble, il fonde la dynastie Tudor, dont l'emblème, la rose Tudor, mêle la rose rouge des Lancastres et la rose blanche des York. Vous venez d'écouter Lacrima de John Dowland sous la direction de Jordi Savall. Même si le royaume est apaisé, Henri VII reste profondément méfiant et pour cause. Des tentatives de renversement sont à l'œuvre. Couronné roi en 1485, le règne d'Henri VII est très tôt confronté à plusieurs tentatives de renversement. Témoignage s'il en est des tensions profondes qui règnent dans le royaume. Et voici l'émergence de Lambert Simnel en 1486. C'est l'une des premières grandes menaces contre Henri VII. Lambert Simnel, un jeune garçon, prétend être Edward, fils d'Édouard IV, et donc héritier légitime de la maison d'York. Cette usurpation vise à exploiter les fractures de la guerre des Deux Roses. En effet, après la mort de Richard III, Henri VII épouse Élisabeth d'York. Il fallait oser au vu du contexte. En outre, il reste encore des partisans de l'ancienne maison d'York qui refusent de reconnaître Henri comme leur roi. Contre toute attente, Simnel est proclamé roi sous le nom d'Édouard VI et soutenu par des figures importantes de l'aristocratie yorkiste, comme John de la Pole, héritier présumé d'York. Simnel et ses soutiens reçoivent l'aide de Marguerite d'York, la tante de Richard III. Elle vit en exil à la cour des Habsbourg. Henri VII fait face à une rébellion sérieuse. Toutefois, après une bataille à Stokefield en 1487, Simnel est capturé et son mouvement écrasé. Il n'est pas exécuté, mais il a pour obligation de travailler dans la cuisine du palais royal jusqu'à la fin de ses jours. Échec majeur pour la cause yorkiste, mais Henri VII reste un roi vulnérable. Et voilà la révolte de Perkin Warbeck, 1491 à 1499. Mais oui, le plus grand défi à la légitimité d'Henri VII survient quelques années plus tard avec Perkin Warbeck, un autre prétendant au trône. Warbeck prétend être Richard de Shrewsbury, le duc d'York, fils d'Édouard IV et frère de Richard III, l'un des princes disparus de la Tour de Londres. La mystification de Warbeck gagne une grande part de soutien au sein des partisans d'York. Il commence sa rébellion en Irlande, où il est d'abord bien accueilli. Il se rend ensuite en France, puis aux Pays-Bas, où il bénéficie du soutien de la cour de Marguerite d'York, la sœur à Élisabeth. Mais oui, vous avez bien entendu. Warbeck se fait couronner roi sous le nom de Richard IV, ce qui menace directement la position d'Henri VII, qui se trouve déjà dans une situation précaire. Alors Henri VII prend des mesures sévères pour étouffer cette rébellion. Warbeck reçoit des soutiens extérieurs pourtant, notamment du roi Charles VIII de France. Ah, mais Charles VIII de France, le pauvre homme, figurez-vous qu'il meurt assommé par le haut d'une porte. Ben, on n'a pas idée de ne pas baisser la tête quand même. Et puis, il est aussi soutenu, Warbeck, par Maximilien Ier du Saint-Empire romain germanique. Hélas pour Warbeck, le succès n'est pas au rendez-vous. Finalement, en 1497, il est capturé en Angleterre après une tentative ratée d'attaque de l'armée d'Henri VII. Il est emprisonné et on lui offre des chances de réconciliation. Mais voilà Tipa que l'idiot bête tente de s'évader. Il est exécuté en 1499. Faut pas jouer avec Henri VII. Cette révolte marque un tournant. Après la mort de Warbeck, Henri VII se retrouve plus solidement installé, mais l'ombre de ses prétendants continue à hanter son règne. Après tant de vacarmes et afin de sécuriser son pouvoir, Henri VII décide de prendre des mesures draconiennes contre ses adversaires. Il renforce sa politique de répression et de contrôle des nobles. Cela inclut la mise en place de mécanismes de surveillance, comme les bonds et recognizances, un système de cautionnement où les nobles doivent payer des sommes considérables pour garantir leur fidélité.
Non mais puis quoi encore ?
Eh oui, Élie, ces rébellions montrent à Henri VII que son pouvoir reste fragile. Le roi doit non seulement faire face aux menaces externes, mais aussi à la concurrence interne de la part de ceux qui revendiquent le trône. Toutefois, grâce à sa prudence et à ses habiles alliances diplomatiques, notamment avec la France et l'Espagne, Il réussit à mettre en place les bases de la stabilité que son fils, Henri VIII, exploitera pour construire une monarchie plus forte encore. Alors, tout au long de son règne, Henri VII veille à maintenir l'ordre par des moyens plus subtils que la force. Il met en place une administration efficace, consolide l'autorité royale et limite les pouvoirs des nobles. Il fait aussi prospérer l'économie anglaise par des accords commerciaux avec l'Europe et la flotte marchande. Ainsi, malgré son ascension à travers une guerre sanglante, Henri VII incarne un règne de conciliation, de consolidation, après des décennies de dévastation. Comme pour trouver de l'apaisement après le récit de ces temps troublés, je vous propose d'écouter Greensleeves, interprété par The King's Singers.
Alas, my love, ye do me wrong to cast me off discourteously, and I have loved you so long, delighting in your company. Greensleeves was all my joy, Greensleeves was my delight. Greensleeves was my heart of gold, and who but my lady Greensleeves.
Vous êtes sur Radio Shalom, à l'écoute de l'émission Histoire d'Outre-Manche. Côté culture, Henri VII pourrait être décrit comme un mécène discret, mais déterminé. La culture sert pour lui à légitimer le pouvoir royal et à renforcer l'unité du royaume. Tout juste sorti des turbulences de la guerre des Deux Roses, Henri VII a voulu avant tout stabiliser son règne. Cependant, bien que le roi ne soit pas particulièrement connu pour ses mécénats artistiques comparé à son fils, il a néanmoins apporté des soutiens importants à certaines formes d'art et de culture. Côté architecture, Henri VII a lancé plusieurs projets architecturaux notables, principalement dans un but de prestige royal. L'un des exemples les plus célèbres est la chapelle de Saint-Georges à Windsor, construite pour marquer la puissance de la monarchie Tudor et faire de ce lieu un centre de dévotion royale. Ce projet, bien que modeste par rapport aux grandes constructions d'Henri VIII, montre son désir de renforcer l'image de la monarchie. Côté art visuel et peinture, Henri VII, en tant que roi prudent et mesuré, n'a pas été un grand mécène des arts comme son fils, mais il a soutenu l'émergence de la peinture de cour. Il accueillait à la cour Michel Sitov, un peintre estonien, ce qui introduisit un nouveau style de peinture en Angleterre, plus influencé par les techniques de la Renaissance. Cela prépare le terrain pour l'essor de l'art de cour au début du XVIe siècle. Côté musique, Henri VII a également montré de l'intérêt pour cet art. Bien que moins centré sur le sujet que son fils, il a soutenu les musiciens de la cour et l'usage de la musique dans la liturgie et les cérémonies royales. Il a fait entrer dans ses palais des compositeurs de renom comme Robert Fairfax. Il était spécialisé dans la musique religieuse. Il composait des messes, des motets et des magnificat. En somme, sous Henri VII, la culture est au service de la stabilité de la monarchie et de son image, plutôt que d'une quête personnelle d'expression artistique. Il a posé des bases solides pour que la culture devienne un moyen de propagande politique. Mais la véritable effervescence culturelle viendra surtout sous le règne de son fils Henri VIII. Je vous propose à présent de découvrir un extrait de l'œuvre de Robert Fairfax, interprété par The Tallis Scholars et dirigé par Peter Phillips. Bon, il est grand temps à présent de s'intéresser au roi Henri VIII. Alors Henri VIII, il fallait le définir, on pourrait dire le roi doré. Son père, Henri VII, meurt le 21 avril 1509. À cette même date, Henri VIII devient roi, à seulement 17 ans. Oh, il n'était pas du tout destiné à cela au départ. Initialement, il devait embrasser une carrière ecclésiastique. Mais le destin bascule à la mort prématurée de son frère aîné, Arthur. Le jeune Henri, athlétique et cultivé, se retrouve héritier du trône. Son éducation soignée le permet. Il incarne la jeunesse, la force et l'ambition. C'est un passionné des tournois de joute, par exemple. Il est aussi extrêmement cultivé. Il parle plusieurs langues, dont le français, et s'intéresse aux arts, notamment à la musique et à la poésie. Henri VIII, c'est l'idéal du prince de la Renaissance, une figure brillante qui incarne à la fois l'élan du jeune roi et le désir de montrer la puissance de l'Angleterre à l'étranger. Dès le début de son règne, Henri VIII s'entoure de conseillers compétents, notamment Thomas Wolsey, un homme d'église habile qui devient son bras droit et occupe la fonction de cardinal et de lord chancelier. Cependant, l'ambition du roi dépasse rapidement les frontières du royaume. Henri rêve de glorieuses conquêtes militaires, à l'instar de ses ancêtres, et de pouvoir rivaliser avec la France et l'Espagne. Alors il lance plusieurs campagnes en Europe, mais les résultats ne sont guère à la hauteur de ses attentes. Le mariage d'Henri VIII avec Catherine d'Aragon, la veuve de son frère, le lie à l'Espagne, et pendant plusieurs années, il semble que leur union soit harmonieuse. Mais, obsédé par l'idée de produire un héritier mâle, Henri va se retrouver dans une situation de plus en plus compliquée. En effet, malgré plusieurs grossesses, Catherine ne parvient pas à lui donner cet héritier tant attendu. Ils ont bien une fille, Marie, mais pas de fils. Obsédé par cette question, Henri, le monarque, cherche une solution radicale. Il souhaite annuler son mariage pour épouser Anne Boleyn, une jeune femme brillante et ambitieuse, et dont il croit être éperdument amoureux. Henri demande au pape Clément VII l'annulation de son mariage avec Catherine, mais le pape refuse, surtout d'ailleurs sous la pression de Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique et neveu de Catherine. Ce refus marque un tournant dans l'histoire de l'Angleterre. Frustré, déterminé, Henri décide de prendre une décision révolutionnaire. Il se sépare de l'Église catholique et fonde une Église d'Angleterre indépendante, dans laquelle il est désormais le chef suprême. Cette rupture avec Rome, c'est ce qu'on appelle le schisme anglais, qui non seulement transforme l'Église, mais change aussi profondément le paysage politique, économique et culturel du pays. Henri VIII commence à dissoudre les monastères, à saisir leurs terres et à se renforcer économiquement. Ces changements radicaux alimentent la tension entre le roi et une partie de son peuple, ainsi qu'avec l'Église catholique évidemment. En outre, l'opposition au divorce de Catherine entraîne des exécutions de figures importantes comme Thomas More, un intellectuel et homme politique qui refuse de renier sa foi catholique. Comme raconté tout à l'heure, Henri VIII est un homme qui accorde une importance toute particulière à l'art. Il aime écrire, il aime composer et il aime encore plus chanter. Ajoutons à cela qu'il aime les femmes à sa façon. Oui, d'une façon bien particulière quand même, qu'il aurait valu d'être classé en tête d'un MeToo de la monarchie si ce groupe devait exister aujourd'hui, ou s'il avait existé à l'époque. Bref, tout cela mélangé, et vous obtenez une chanson que je vous propose en écoute à présent. pass time with good company. Ah, tu m'étonnes, le vilain. 6 épouses et un roi tourmenté. Et quand je dis tourmenté, c'est un euphémisme. Henri VIII est célèbre, entre guillemets, pour ses 6 épouses, dont chacune marque une étape importante dans sa vie et son règne. Bien sûr, le premier mariage, c'est Catherine d'Aragon. Il est annulé, ce mariage, après plus de 20 ans de vie commune. Elle ne lui a pas donné de fils, mais leur fille deviendra néanmoins plus tard Mary I, reine d'Angleterre. Le second mariage, c'était avec Anne Boleyn. Anne Boleyn était la mère d'Élisabeth Ier. Elle est la passion du roi. Cependant, elle est accusée de trahison et d'inceste. Elle est exécutée. La pauvre Anne Boleyn a écrit un répertoire de chansons. Je vous propose d'écouter « Tempus meum est » comme une passion triste pour faire référence à Spinoza. « Mon heure est venue ».
Thank you.
Magnifique et émouvant, n'est-ce pas? Ce morceau était interprété par le chœur à la mine. La troisième épouse d'Henri VIII était Jane Seymour. Enfin, enfin, une femme qui lui donne un héritier mâle. Édouard VI en l'occurrence. Malheureusement, elle meurt des suites de complications après l'accouchement. Sa quatrième épouse, Anne de Clèves. Alors là, il s'agissait d'un mariage politique arrangé en raison des liens entre le Saint-Empire romain germanique et le roi Henri VIII. Le mariage ne dura que quelques mois en raison du manque d'attirance du roi. Rien que ça. Sa cinquième épouse, Catherine Howard, est une jeune cousine d'Anne Boleyn, en plus. Elle est accusée d'adultère. Elle est exécutée. Enfin, sa dernière épouse est Catherine Parr, sixième et dernière épouse. Vous croyez au miracle? Car si vous y croyez, elle en fait assurément partie. La sixième et dernière épouse a survécu à Henri. Femme cultivée, elle a joué un rôle important dans l'éducation des enfants royaux et elle a aussi contribué à une certaine stabilité à la fin du règne. Vous le voyez, les mariages successifs d'Henri reflètent non seulement ses désirs personnels, mais aussi ses ambitions politiques. Ces mariages sont souvent dictés par la nécessité d'assurer une succession stable, mais ils finissent toujours par devenir des drames humains. Pour montrer l'absence d'empathie du roi Henri VIII envers ses femmes, je vous propose d'écouter une chanson qui a pour titre « Hélas, madame » et dont il revendiquait la paternité. Sur la place qu'il accordait aux femmes, le sort d'Henri VIII est scellé. Un homme d'aucune empathie. Mais qu'en est-il de la place de la culture sous son règne? Eh bien, Henri VIII est considéré comme un mécène de la Renaissance et comme un roi de la splendeur culturelle. Avec lui, l'Angleterre entre dans une nouvelle ère, où la culture devient une priorité royale et un moyen d'affirmer le prestige international de la cour. Ce roi, animé par une passion pour la grandeur et la magnificence, va transformer la culture anglaise de manière significative. Côté art visuel, Henri VIII est un roi passionné de peinture et de sculpture. Sa cour devient l'un des centres artistiques majeurs d'Europe. L'influence de la Renaissance italienne se fait sentir et Henri s'entoure d'artistes talentueux, notamment Hans Holbein le Jeune, qui devient le peintre officiel de la cour. Holbein réalise des portraits emblématiques d'Henri VIII, mais aussi de ses épouses et des figures politiques de l'époque. Ces portraits, d'une grande précision, sont non seulement des œuvres d'art, mais aussi des instruments de propagande. Côté architecture, Henri VIII transforme l'architecture royale en Angleterre. Il fait réaliser plusieurs palais royaux qui témoignent de la magnificence du royaume. Hampton Court, par exemple, qui lui fut donné par le cardinal Wolsey, devient un symbole de la splendeur de la cour royale, sans oublier le somptueux jardin qui va avec. Henri VIII, c'est aussi la construction de vastes salles de banquet et de chapelles royales qui permettent à la cour d'être un centre d'exubérance et de faste, illustrant l'importance croissante du pouvoir royal. Je voudrais faire un petit détour par le style architectural Tudor. Imaginez-vous en Angleterre, à la fin du XVe siècle. C'est le début de ce qu'on appelle le style Tudor. Un style architectural unique, typiquement anglais, qui combine héritage médiéval, influence gothique et premiers élans de la Renaissance. Un style que l'on reconnaît dès le premier coup d'œil. Une façade en bois et torchis, avec des poutres sombres qui dessinent des motifs géométriques. Des toits très pentus, souvent en tuiles ou en chaume. De hautes cheminées en briques rouges, tressées comme des sculptures. Et des fenêtres à petits carreaux de verre au plomb. Ces détails donnent au style Tudor son cachet inimitable, à la fois rustique et raffiné. Mais aujourd'hui, que reste-t-il du style Tudor ? Eh bien, beaucoup. Le style a connu une seconde vie, notamment au XIXe et XXe siècle, avec ce qu'on appelle le Tudor Revival. Un retour de mode qui a inspiré de nombreuses maisons anglaises, américaines et même canadiennes. On en retrouve des variantes dans les banlieues, dans des hôtels ou des cottages inspirés, avec des fours colombages et des cheminées de style. C'est que le style Tudor, au fond, touche quelque chose d'universel. Le goût pour l'authenticité, le charme rustique, l'idée d'un foyer chaleureux au coin du feu. C'est un style qui raconte une histoire, celle d'une Angleterre entre deux mondes, entre l'ombre des châteaux forts et la lumière de la Renaissance. Côté musique, Henri VIII est grand amateur de musique. Son influence a été essentielle dans la transformation de la musique de cour anglaise. Il accorda une place centrale à Thomas Tallis, notamment. Il écrit également des chansons et des airs, contribuant à l'émergence de la musique profane en Angleterre. Hélas, madame, n'est-ce pas, ou Pastime with Good Company. Cela participe à l'essor d'un répertoire musical royal sophistiqué, composé aussi bien de pièces religieuses que séculaires. Côté lettres et littérature, Henri VIII encourage également les écrivains et les penseurs. Le roi lui-même était un homme de lettres, parlant plusieurs langues et écrivant des poèmes et des traités. La cour d'Henri VIII devint un lieu de renaissance intellectuelle, où les idées nouvelles de la Renaissance italienne et européenne commencent à circuler. L'impression de livres se développe également à cette époque, avec une plus grande diffusion des idées humanistes et des classiques latins. Cela favorise la naissance d'une culture plus ouverte et savante à la cour royale. Comme autrice discrète mais importante, on peut citer Margaret Roper, une femme érudite et fille de Thomas More. Elle a rassemblé les écrits de son père. Oui, en matière culturelle, la cour de Henri VIII est devenue un véritable carrefour culturel européen, attirant des artistes, des musiciens et des intellectuels de toute l'Europe. L'héritage de cette période se retrouve dans l'épanouissement de l'art et de la culture anglaise au XVIe siècle, jusqu'à l'ère d'Élisabeth Ière, qui héritera d'une cour déjà imprégnée des influences de la Renaissance. Pour illustrer les goûts musicaux de la cour, je vous propose d'écouter Thomas Tallis, If You Love Me, interprété par The Tenebra Choir et dirigé par Nigel Short. Il est toujours question d'amour. D'amour? Oui, mais... Vous êtes toujours sur Radio Shalom à l'écoute de l'émission Histoire d'Outre-Manche. Je ne peux pas consacrer un chapitre de l'émission à Henri VIII sans évoquer le personnage très controversé de Thomas Cromwell. Il est l'homme clé de la réforme anglicane et de la politique du roi. Oui, Cromwell est l'une des figures les plus marquantes et controversées du règne d'Henri VIII. Né vers 1485 dans une famille modeste, il monte en puissance grâce à son esprit brillant, son habileté politique et sa capacité à saisir les opportunités. Il est souvent considéré comme l'architecte de la réforme anglaise et sa carrière témoigne de l'ambition et de l'ingéniosité qui ont marqué la politique de l'époque. Alors au départ, c'est un avocat et homme d'affaires au service de la famille de Wolsey, le cardinal et principal conseiller d'Henri VIII. Cependant, après la chute de Wolsey en 1529, Cromwell réussit à s'imposer comme l'un des plus proches conseillers du roi. Il devient secrétaire d'État, une position clé dans l'administration, et gagne une influence considérable à la cour. Sa capacité à gérer les affaires administratives et politiques du royaume fait de lui un homme incontournable au sein du gouvernement royal. Il est, vous le savez aussi, surtout connu pour son rôle dans la réforme religieuse anglaise, qui a transformé l'Angleterre en une nation protestante. En tant que principal conseiller d'Henri VIII, Il soutient sans relâche la séparation d'Henri VIII de l'Église catholique romaine. Il est l'instigateur de l'acte de suprématie voté en 1534 et qui proclame Henri VIII chef suprême de l'Église d'Angleterre, brisant ainsi les liens avec Rome. Cromwell supervisera la dissolution des monastères. Il avait pour méthode de gouvernance la centralisation du pouvoir et l'utilisation du Parlement à des fins de servir les intérêts royaux, sous des faux airs d'ouverture. Il travailla avec rigueur et autoritarisme, tentant de moderniser l'État anglais. Il fut vite rattrapé par ses origines modestes et vu d'un œil mauvais par l'aristocratie qui jouissait de tous les privilèges. Son mariage avec Anne de Clèves le conduisit en disgrâce, accusé d'être un traître et un hérétique. Il fut exécuté. Moralité, pas de cadeau dans la vie politique, et cela n'a guère changé des siècles plus tard. Je vous propose d'écouter un des grands musiciens de la période Tudor. J'ai nommé William Byrd et son Agnus Dei, extrait de la messe pour quatre voix et interprété par le chœur de la Christ Church of Oxford. À sa mort en 1547, Henri VIII laisse un héritage complexe. Son fils, Édouard VI, protestant, succède à Henri mais meurt jeune. Marie Ière, sa fille catholique, prend ensuite le trône et tente de restaurer le catholicisme avant de céder la place à Élisabeth Ière, sa demi-sœur. Élisabeth régnera pendant la période la plus glorieuse de l'Angleterre. Donc en fait, deux rois et une dynastie, Henri VII et Henri VIII, bien que très différents dans leur personnalité et leur méthode, ont tous deux marqué l'histoire de l'Angleterre. L'un a posé les bases d'un royaume stable et prospère, l'autre a bouleversé la structure même de l'Église et a laissé un impact durable sur la politique et la culture anglaise. Ensemble, ils ont construit une dynastie, les Tudors, qui marquera l'histoire du pays pour des générations à venir. Un des grands auteurs musiciens anglais, et que j'aime tout particulièrement, est Henry Purcell. Oh, il ne fait pas partie de l'époque des Tudors, mais je voudrais vous le faire écouter, et vous faire écouter « If Music Be the Food of Love ». Ce morceau est interprété par le ténor Thomas Cooley. Je le dédie en guise de dernier hommage à Anne Boleyn et Catherine Howard, toutes deux exécutées, et puis aussi aux humiliations subies par les autres épouses d'Henri VIII. Ainsi se termine le dernier numéro d'Histoire d'Outre-Manche. La prochaine fois, je vous raconterai l'histoire de l'opéra anglais à travers deux grands noms, Benjamin Britten et Henry Purcell. Merci à mon cher technicien Eli et à très vite sur Radio Shalom.